Les zones d'ombre de l'histoire.
L'histoire aurait pu être la trame d'un roman de John le Carré, mais c'est bien dans la réalité qu'elle a eu lieu. Durant l'été 2009, l'Arctic Sea, un vraquier appartenant à un armateur russe, va tout simplement disparaître à deux reprises des écrans radars. Pour quelle raison? Et surtout, quelle était sa cargaison? Officiellement, les cales contenaient du bois de Finlande, une cargaison banale a priori. Mais les espaces de stockage étaient-ils uniquement occupés par du bois? Quand on s'intéresse à l'histoire de l'Arctic Sea, on relève un itinéraire tortueux qui nous fait croiser quelques ports réputés abriter le trafic d'armes. On y croise aussi des agents très spéciaux, œuvrant sans doute pour des services de renseignement. La suite dans un instant.
Fucking will.
Mis à l'eau en 1991, l'Arctic Sea est un vraquier battant pavillon maltais. Depuis 2009, il appartient à une société basée à Helsinki, dont le propriétaire est un armateur russe. En juillet 2009, il est amarré dans un port finlandais, où il doit prendre en charge une cargaison de bois à destination du port algérien de Béjaïa, où il est attendu le 4 août. Le 23 juillet, un premier fait troublant se produit. Juste avant d'appareiller, l'Arctic Sea reçoit la visite d'inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise. Cela a de quoi surprendre pour une cargaison qui n'est apparemment constituée que de bois. Après l'inspection, le navire prend finalement la mer avec son chargement et 15 membres d'équipage. Le 24 juillet, alors qu'il se trouve entre les îles d'Åland et de Gotland au large des côtes suédoises, le bateau reçoit une étrange visite dont on n'aura connaissance que 5 jours plus tard. Il aurait été abordé par une vedette arborant le sigle de la police suédoise et une dizaine d'hommes armés et en uniforme seraient montés à bord, se présentant comme des policiers chargés de la surveillance du trafic de drogue. Ce qui se passe ensuite est confus. Dans une première version, les hommes seraient restés à bord environ 24 heures, auraient molesté quelques marins et endommagé les systèmes de transmission. Dans une seconde version, ils ne seraient restés qu'une dizaine d'heures et auraient juste contrôlé la cargaison et pris des photos. En toute logique, le capitaine Sergueï Zaretsky a dû informer l'armateur d'un tel événement. Or, ce dernier réagira d'une façon étrange. Dans un pareil cas, l'armateur aurait dû ordonner que le navire se déroute vers le port le plus proche, afin de subir une expertise. Mais il n'en sera rien. La consigne donnée au capitaine est visiblement de poursuivre sa route, comme si rien ne s'était passé. Le 28 juillet, lors d'un échange radio avec le port de Douvres, le capitaine ne mentionne pas l'incident. Ce n'est que le lendemain que l'armateur prend contact avec la police suédoise pour rapporter le fait. Les autorités suédoises sont alors catégoriques. Elles n'ont procédé à aucun contrôle sur le bateau. Qui étaient donc ces faux policiers et que cherchaient-ils ? L'Arctic Sea poursuit sa route et le 29 juillet, il arrive dans le Cotentin. Il continue à envoyer des messages automatiques de signalisation. Dans la nuit du 29 au 30, il est proche de l'île d'Ouessant. Mais après le 30 juillet, le bateau ne se signale plus. On perd totalement sa trace. Le 3 août, il aurait dû se trouver dans le détroit de Gibraltar, mais il n'est pas au rendez-vous. Mikhail Voitenko, un journaliste spécialiste des questions maritimes, affirme avoir pu suivre la progression du navire durant quelques heures, simplement grâce à Internet. On peut donc en conclure que le système automatique de signalisation a été volontairement désactivé. La Russie affirme alors que le bateau est tombé aux mains de pirates qui sont montés à bord lors de son passage dans le golfe de Gascogne et demande l'aide de la communauté européenne. Interpol émet une alerte pour disparition de navires, et même les forces de l'OTAN sont mises à contribution. Toutefois, le scepticisme prévaut. En effet, d'une part, la piraterie n'existe plus dans l'Atlantique Nord depuis au moins un siècle. Mais surtout, quelle raison aurait poussé un commando à s'intéresser à un vraquier censé transporter une simple cargaison de grumes d'une valeur d'un peu plus $1 million ? Mikhail Voitenko, qui connaît visiblement assez bien l'histoire récente de l'Arctic Sea, va révéler un certain nombre d'éléments troublants. D'une part, ce n'est pas la première fois que le bateau se soustrait à la surveillance maritime. En 2007, 2008 et au printemps 2009, il avait déjà disparu momentanément. Mais Voitenko affirme aussi qu'avant d'arriver en Finlande pour charger sa cargaison de bois, le bateau a séjourné 3 semaines dans le port russe de Kaliningrad. Officiellement pour y recevoir l'inspection annuelle du bureau maritime, ainsi que pour quelques réparations. Mais ce port est bien connu pour servir de plaque tournante au trafic d'armes supervisé par la mafia russe. Depuis l'effondrement de l'URSS, les autorités nucléaires occidentales sont très inquiètes sur le devenir de l'arsenal militaire soviétique. Et ce port retient tout particulièrement l'attention. Ainsi, tant à la communauté européenne qu'au Bureau maritime international, on pense de plus en plus que le navire cache volontairement sa route, même si les Russes continuent à affirmer qu'il est aux mains de pirates. L'Arctic Sea est brièvement localisé par une patrouille aérienne quelques jours plus tard au large des côtes portugaises. L'armateur affirme alors qu'il a reçu une demande de rançon d'un peu plus d'un million d'euros pour la restitution du bateau et de son chargement. La somme représente à peu près le prix de la cargaison. Les experts maritimes européens doutent de plus en plus et vont se tenir à distance de cette affaire, laissant les Russes à la manœuvre, car ils pensent que les informations données par Moscou ne sont pas crédibles.
Something everybody everywhere does in the same as we watch you die. All we can do is echo your anguished cries, stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we'll not laugh again. We are leaving, you don't need we'll be right back.
south on my shoulder. Guess I'll set a course and go.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
La Russie va mobiliser un invraisemblable dispositif pour retrouver l'Arctique Sea. 5 navires de guerre en provenance de la mer Noire, à bord duquel ont pris place des éléments des forces spéciales, ainsi que 2 sous-marins nucléaires pour, selon le président Medvedev, venir en aide à un équipage russe en danger. Le 14 août, le navire est localisé par un avion de reconnaissance français au large du Cap-Vert. Et le 15, une frégate russe s'approche pour découvrir que le bateau a été maquillé. Il a pris le nom d'un navire qui existe bien, sous un pavillon nord-coréen. On comprend alors à quoi ont été utilisés les jours où il était introuvable. L'Arctic Sea serait alors sous le contrôle d'un commando de 8 marins, 4 Lettons, 2 Russes et 2 Estoniens. Il est escorté jusque dans un port capverdien et le 17 août, les forces spéciales russes en prennent le contrôle. On peut observer que le soi-disant commando n'a pas opposé la moindre résistance à cet arraisonnement. Moscou envoie alors un détachement de police pour interroger l'équipage et les pirates. Mais bizarrement, ces policiers font le voyage dans 2 avions gros porteurs, comme s'il n'était pas seulement question d'interroger les hommes, mais peut-être aussi de transporter quelque chose. Le 19 août, à l'exception du capitaine, de son second, d'un mécanicien et d'un marin, tout l'équipage et les pirates sont emmenés à Moscou et interrogés par le FSB, les services de renseignement. Ils sont immédiatement incarcérés dans la prison de Lefortovo, une prison de haute sécurité. Les 11 hommes de l'équipage seront rapidement libérés et pourront retourner à Arkhangelsk, la ville dont ils sont originaires. Mais il leur est interdit de parler de cette histoire, ils ont même dû signer un document les engageant à garder le silence. Les 8 hommes que Moscou accuse d'avoir détourné le navire restent quant à eux en prison. Le 20 août, la Russie fait savoir qu'il n'y a rien de suspect dans la cargaison de l'Arctic Sea, mais que pour les besoins de l'enquête, le bateau doit être accueilli au port de Novorossiysk. Mais finalement, il fait route vers les Canaries pour décharger la fameuse cargaison de bois. Les autorités espagnoles lui refusent l'entrée au port, car comme il y a des militaires à bord, le navire a perdu son statut commercial. Il se dirige alors vers Béjaïa, sa destination d'origine. Mais le gouvernement algérien refuse de l'accueillir pour les mêmes raisons. Après avoir fait des ronds dans l'eau pendant plusieurs jours dans le détroit de Gibraltar, le navire fait finalement route vers Malte, où il est accueilli le 29 octobre.
Строил город, и ему не хватило гвоздя. Никита Рязанский протянул ладони и увидел в них капли дождя. Никита Рязанский оставил город и вышел в сад. Никита Рязанский оставль старца и у чашек, кто млад. Узнав о нем, пришла к нему в дом. Святая София искала его и нашла его под кустом. Она крестила его соленым хлебом и горьким вином. И они смеялись и молились вдвоем. Смотри, Господи, крепости от крепости страх. Мы, Господи, дети у Тебя в руках. Научи нас видеть Тебя за каждой бедой. Прими, Господи, этот хлеб и вино. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой. Потому что он должен спасти 9000 церквей. Ищут его и не могут его найти. А ночью опять был дождь и пожар догорел. Там остался лишь дым, но город
спасется, пока трое из нас продолжают говорить с ним. Смотри, Господи, крепости от крепости страх. Господи, дети у тебя в руках, научи нас видеть тебя за каждой бедой. Прими, Господи, этот хлеб и вино. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой.
Les zones d'ombre de l'histoire.
On l'a vu, même après la prise de contrôle des forces russes, l'itinéraire de l'Arctic Sea reste intrigant. Et le 29 octobre, lors de son entrée à Malte, le bateau subit pour la seconde fois une inspection afin de s'assurer qu'il ne transporte aucune substance radioactive. Les autorités finlandaises avaient déjà procédé à un tel contrôle le 23 juillet. Il n'y a pas que l'équipage du navire qui est contraint au silence, si l'on peut dire. Mikhaïl Voïtenko, le journaliste très bien informé, recevra des menaces de mort apparemment suffisamment convaincantes pour le pousser à quitter la Russie. Le chef des investigations finira par lâcher cette phrase ambiguë « Il est possible que l'Arctic Sea n'ait pas transporté que du bois ». Mais il n'en dira pas plus. Les 8 hommes présentés par Moscou comme des pirates seront jugés en 2011 et très lourdement condamnés pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de détournement de navires et escroquerie, au terme d'un procès qui tenait surtout de la parodie. Les autorités russes interdiront tout contact entre les accusés et les médias. Les peines de prison prononcées vont de 7 à 12 ans. Quelques mois après le procès, le frère d'un des accusés expliquera que son frère travaillait en réalité pour une société assurant la sécurité des cargos. Mission avait été donnée à ces 8 hommes de monter à bord de l'Arctic Sea pour en assurer la protection. Si l'on donne foi à ce témoignage, et que l'on considère que l'acte de piraterie dont parlent les Russes est hautement improbable, il faut se rendre à l'évidence. Ces 8 hommes ont mis les pieds dans une histoire qui les dépasse largement. Il semble évident que la Russie a fabriqué de toutes pièces cette histoire de détournement. Mais dans quel but ? Que fallait-il cacher ? L'explication se trouve peut-être dans un fait qui a eu lieu le 19 août. Le jour où les forces spéciales russes prennent le contrôle du navire, le président israélien Shimon Peres fait un voyage éclair et non prévu à Moscou pour y rencontrer son homologue Dmitri Medvedev. Il faut savoir que depuis quelques années, Israël et la Russie ont signé de nombreux accords de coopération, dont certains couvrent les domaines de la recherche militaire. Mais ces accords ne sont pas sans accrocs. La Russie, par exemple, n'a pas apprécié la fourniture d'armes à la Géorgie par l'État hébreu en 2008. Et de son côté, Israël voit d'un mauvais œil Moscou vendre des armes à l'Iran. Alors, tant à Jérusalem qu'à Moscou, on s'est engagé à ne pas vendre d'armes à des pays dits « sensibles ». Mais cette mesure, destinée à ne pas froisser les sensibilités de part et d'autre, est intervenue après la signature en 2008 d'un contrat entre la Russie et l'Iran portant sur la vente par Moscou de missiles S-300, des armes dont Israël a tout à craindre en cas de conflit. Comment la Russie pouvait-elle se sortir d'une telle situation ? Le contrat avec l'Iran a d'abord été gelé par Vladimir Poutine. Mais au Kremlin, pouvait-on et avait-on réellement envie de renoncer purement et simplement à cette livraison d'armes ? L'Arctic Sea aurait-il été au centre d'une manipulation pour faire parvenir de façon détournée ces missiles à Téhéran ? On soupçonne de plus en plus les faux policiers suédois montés à bord le 24 juillet d'avoir été de vrais agents du Mossad, les services de renseignements israéliens. En effet, les services de renseignement du monde entier savent parfaitement que lorsqu'un État veut dissimuler un certain type de commerce sensible, il existe des dizaines de possibilités pour y parvenir. Ayant tout à craindre d'un double jeu de Moscou concernant le contrat avec l'Iran, il est évident que les agents du Mossad avaient accru leur surveillance. On se souvient que selon les informations du journaliste Mikhaïl Voïtenko, l'Arctic Sea avait séjourné quelque temps dans le port de Kaliningrad, avant le début de son tortueux périple, et que ce port est connu pour abriter le trafic d'armes. Moscou aurait pu confier cette cargaison à des intermédiaires qui se seraient servis de l'Arctic Sea et de son innocent chargement de bois pour faire sortir les missiles de Russie. La visite des faux policiers suédois aurait alors été un message des services israéliens destiné à faire savoir à Moscou que l'État hébreu était parfaitement au courant de la manœuvre, libre à la Russie de trouver une issue. Moscou aurait alors pu organiser de toutes pièces le faux détournement en recrutant les 8 marins baltes, la récupération de la cargaison se faisant au Cap-Vert. Mais il y a un scénario encore plus machiavélique. En effet, l'Iran était un partenaire commercial important, et l'on imagine bien que la Russie ne pouvait se permettre d'offusquer Téhéran. Le faux détournement de l'Arctique Sea aurait pu être conjointement organisé par les services de renseignement russes et israéliens, le FSB et le Mossad œuvrant en commun pour permettre à Moscou de faire semblant d'honorer le contrat avec l'Iran. Les visites éclairs de Shimon Peres et Benjamin Netanyahou venant confirmer l'intense et discrète activité diplomatique de part et d'autre des deux capitales. Dernier fait troublant, le 30 juillet, au moment où l'Arctique Sea disparaissait des écrans radars, le responsable des exportations de la société Almaz Scientific Industrial Corporation, qui fabrique les précieux missiles S-300, a été assassiné à Moscou. L'homme qui lui a tiré dessus n'a jamais été retrouvé. On sait que l'État israélien n'hésite jamais à envoyer ce genre de signal spectaculaire quand il le juge nécessaire. Je vous retrouve dans 15 jours, à la même heure, pour un prochain numéro des Zones d'ombre de l'Histoire.